Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Troisième partie, livre 37e. Château des rois de Bohême. Première entrevue avec Charles X. 2. Monsieur le Dauphin. Les enfants de France. Duc et Duchesse de Guiche. Triumvirat. Mademoiselle. 3. Conversation avec le roi. 4. Henri V. 5. Dîner et soirée à Hâtre-Chine. 6. Visite. 7. Messe. Général Czerniki. 8. Dîner chez le comte de Chotek. 9. Pentecôte, le duc de Blacas. 10. Incidence, description de Prague. Tycho Brahe, Perdita. 11. Suite des incidences, de la Bohème, littérature slave et néo-latine. 12. Je prends congé du roi. Adieu. Lettre des enfants à leur mère. Un juif. La servante saxonne. 13. Ce que je laisse à Prague. 14. Le duc de Bordeaux. Chapitre 1. Prague, 24 mai 1833. Château des rois de Bohême. Première entrevue avec Charles X. Entré à Prague le 24 mai, à 7 heures du soir, je descendis à l'hôtel des Bains, dans la vieille ville bâtie sur la rive gauche de la Moldau. J'écrivis un billet à M. le duc de Blacas pour l'avertir de mon arrivée. Je reçus la réponse suivante. « Si vous n'êtes pas trop fatigué, Monsieur le Vicomte, le roi sera charmé de vous recevoir dès ce soir à 9h15. Mais si vous désirez vous reposer, ce serait avec grand plaisir que Sa Majesté vous verrait demain matin à 11h30. Agréez, je vous prie, mes compliments les plus empressés. Ce vendredi 24 mai à 7h, Blacas d'Olps. Je ne crus pas pouvoir profiter de l'alternative qu'on me laissait. À 9h30 du soir, je me mis en marche. Un homme de l'auberge, sachant quelques mots de français, me conduisit. Je gravis des rues silencieuses, sombres, sans réverbères, jusqu'au pied de la haute colline que couronne l'immense château des rois de Bohême. L'édifice dessinait sa masse noire sur le ciel. Aucune lumière ne sortait de ses fenêtres. Il y avait là quelque chose de la solitude, du site et de la grandeur du Vatican, ou du temple de Jérusalem vu de la vallée de Josaphat. On n'entendait que le retentissement de mes pas et ceux de mon guide. J'étais obligé de m'arrêter par intervalle sur les plateformes des pavés échelonnés, tant la pente était rapide. À mesure que je montais, je découvrais la ville au-dessous. Les enchaînements de l'histoire, le sort des hommes, la destruction des empires, les desseins de la Providence, se présentaient à ma mémoire en s'identifiant au souvenir de ma propre destinée. Après avoir exploré des ruines mortes, j'étais appelé au spectacle des ruines vivantes. Parvenu au plateau sur lequel est bâti Hâtre-Chine, nous traversâmes un poste d'infanterie dont le corps de garde avoisinait le guichet extérieur. Nous pénétrâmes par ce guichet dans une cour carrée, environnée de bâtiments uniformes et déserts. Nous enfilâmes à droite, au rez-de-chaussée, un long corridor qu'éclairait de loin en loin des lanternes de verre accrochées aux parois du mur, comme dans une caserne ou dans un couvent. Au bout de ce corridor s'ouvrait un escalier, au pied duquel se promenaient deux sentinelles. Comme je montais le second étage, je rencontrai M. de Blacas qui descendait. J'entrai avec lui dans les appartements de Charles X. Là étaient encore deux grenadiers en faction. Cette garde étrangère, ces habits blancs à la porte du roi de France, me faisaient une impression pénible. L'idée d'une prison plutôt que d'un palais me vint. Nous passâmes trois salles annuitées et presque sans meubles. Je croyais errer encore dans le terrible monastère de l'Escurial. M. de Blacas me laissa dans la troisième salle pour aller avertir le roi, avec la même étiquette qu'aux Tuileries. Il revint me chercher, m'introduisit dans le cabinet de Sa Majesté et se retira. Charles X s'approcha de moi, me tendit la main avec cordialité en me disant « Bonjour, bonjour, monsieur de Chateaubriand, je suis charmé de vous voir, je vous attendais. Vous n'auriez pas dû venir ce soir, car vous devez être bien fatigué. Ne restez pas debout, asseyons-nous. Comment se porte votre femme ? Rien ne brise le cœur comme la simplicité des paroles, dans les hautes positions de la société et les grandes catastrophes de la vie. Je me mis à pleurer comme un enfant. J'avais peine à étouffer avec mon mouchoir le bruit de mes larmes. Toutes les choses hardies que je m'étais promis de dire, toute la vaine et impitoyable philosophie dont je comptais armer mes discours, me manqua. Moi, devenir le pédagogue du malheur. Moi, oser en remontrer à mon roi en cheveux blancs, à mon roi proscrit, exilé, prêt à déposer sa dépouille mortelle dans la terre étrangère. Mon vieux prince me prit de nouveau par la main, en voyant le trouble de cet impitoyable ennemi, de ce dur opposant des ordonnances de juillet. Ses yeux étaient humides. Il me fit asseoir à côté d'une petite table de bois sur laquelle il y avait deux bougies. Il s'assit auprès de la même table, penchant vers moi sa bonne oreille pour mieux m'entendre, m'avertissant ainsi de ces années qui venaient mêler leurs infirmités communes aux calamités extraordinaires de sa vie. Il m'était impossible de retrouver la voix en regardant dans la demeure des empereurs d'Autriche le 68e roi de France, courbé sous le poids de ses règnes et de 76 années. De ces années, 24 s'étaient écoulées dans l'exil, 5 sur un trône chancelant. Le monarque achevait ses derniers jours dans un dernier exil, avec le petit-fils dont le père avait été assassiné et de qui la mère était captive. Charles X, pour rompre ce silence, m'adressa quelques questions. Alors j'expliquai brièvement l'objet de mon voyage. Je me dis porteur d'une lettre de Madame la Duchesse de Berry, adressée à Madame la Dauphine, dans laquelle la prisonnière de Blaye confiait le soin de ses enfants à la prisonnière du Temple, comme ayant la pratique du malheur. J'ajoutai que j'avais aussi une lettre pour les enfants. Le roi me répondit « Ne la leur remettez pas. Ils ignorent en partie ce qui est arrivé à leur mère. Vous me donnerez cette lettre. Au surplus, nous parlerons de tout cela demain à 2 heures. Allez vous coucher. Vous verrez mon fils et les enfants à 11 heures et vous dînerez avec nous. » Le roi se leva, me souhaita une bonne nuit et se retira. Je sortis, je rejoignis M. de Blacas dans le salon d'entrée. Le guide m'attendait sur l'escalier. Je retournai à mon auberge, descendant les rues sur les pavés glissants, avec autant de rapidité que j'avais mis de lenteur à les monter. Chapitre 2. Prague, 25 mai 1833. Monsieur le Dauphin, les enfants de France, le duc et la duchesse de Guiche, triumvirat, mademoiselle. Le lendemain, 25 mai, je reçus la visite de monsieur le comte de Cossé, logé dans mon auberge. Il me raconta les brouilleries du château relatives à l'éducation du duc de Bordeaux. À 10h30, je montai à Hartschin. Le duc de Guiche m'introduisit chez monsieur le Dauphin. Je le trouvai vieilli et amaigri. Il était vêtu d'un habit bleu râpé, boutonné jusqu'au menton et qui, trop large, semblait acheté à la friperie. Le pauvre prince me fit une extrême pitié. monsieur le dauphin a du courage. Son obéissance à Charles X l'a seule empêché de se montrer à Saint-Cloud et à Rambouillet, tel qu'il s'était montré à Chiclana. Sa sauvagerie en est augmentée. Il supporte avec peine la vue d'un nouveau visage. Il dit souvent au duc de Guiche, « Pourquoi êtes-vous ici ? Je n'ai besoin de personne. Il n'y a pas de trou de souris assez petit pour me cacher. » Il a dit encore plusieurs fois, « Qu'on ne me parle pas de moi, qu'on ne s'occupe pas de moi. Je ne suis rien. Je ne veux rien être. J'ai 20 000 francs de rente. C'est plus qu'il ne me faut. Je ne dois songer qu'à mon salut et à faire une bonne fin. » Il a dit encore, « Si mon neveu avait besoin de moi, je le servirais de mon épée. Mais j'ai signé contre mon sentiment mon abdication pour obéir à mon père. Je ne la renouvellerai pas. Je ne signerai plus rien. Qu'on me laisse en paix. Ma parole suffit, je ne mens jamais. » Et c'est vrai, sa bouche n'a jamais proféré un mensonge. Il lit beaucoup, il est assez instruit, même dans les langues. Sa correspondance avec M. de Villèle pendant la guerre d'Espagne a son prix, et sa correspondance avec Mme la Dauphine, interceptée et insérée dans le Moniteur, le fait aimer. Sa probité est incorruptible, sa religion est profonde. Sa piété filiale s'élève jusqu'à la vertu, mais une invincible timidité ôte au dauphin l'emploi de ses facultés. Pour le mettre à l'aise, j'évitais de l'entretenir de politique et ne m'enquis que de la santé de son père. C'est un sujet sur lequel il ne tarit point. La différence de climat d'Édimbourg et de Prague, la goutte prolongée du roi, les eaux de Teplitz que le roi allait prendre, le bien qu'il en éprouverait, voilà le texte de notre conversation. Monsieur le Dauphin veille sur Charles X comme sur un enfant. Il lui baise la main quand il s'en approche, s'informe de sa nuit, ramasse son mouchoir, parle haut pour s'en faire entendre, l'empêche de manger ce qui l'incommoderait, lui fait mettre ou ôter une redingote, selon le degré de froid ou de chaud, l'accompagne à la promenade et le ramène. Je n'eus garde de parler d'autre chose. Des journées de juillet, de la chute d'un empire, de l'avenir de la monarchie, mots. « Voilà 11 heures, me dit-il. Vous allez voir les enfants, nous nous retrouverons à dîner. » Conduit à l'appartement du gouverneur, les portes s'ouvrent. Je vois le baron de Damas avec son élève. Madame de Gontaut avec mademoiselle, monsieur de Barande, monsieur Lavillatte et quelques autres dévoués serviteurs. Tout le monde debout. Le jeune prince, effarouché, me regardait de côté, regardait son gouverneur comme pour lui demander ce qu'il avait à faire, de quelle façon il allait agir dans ce péril, ou comme pour obtenir la permission de me parler. Mademoiselle souriait d'un demi-sourire avec un air timide et indépendant. Elle semblait attentive aux faits et gestes de son frère. Madame de Gontaut se montrait fière de l'éducation qu'elle avait donnée. Après avoir salué les deux enfants, je m'avançai vers l'orphelin et je lui dis « Henri V, me veut-il permettre de déposer à ses pieds l'hommage de mon respect ? Quand il sera remonté sur son trône, il se souviendra peut-être que j'ai eu l'honneur de dire à son illustre mère « Madame, votre fils est mon roi. » Ainsi j'ai le premier proclamé Henri V roi de France, et un jury français, en m'acquittant, à laisser subsister ma proclamation. Vive le roi ! L'enfant ébouriffé de s'entendre saluer roi, de m'entendre parler de sa mère, dont on ne lui parlait plus, recula jusque dans les jambes du baron de Damas, en prononçant quelques mots accentués, mais presque à voix basse. Je dis à monsieur de Damas, « Monsieur le baron, mes paroles semblent étonner le roi. Je vois qu'il ne sait rien de sa courageuse mère, et qu'il ignore ce que ses serviteurs ont quelquefois le bonheur de faire pour la cause de la royauté légitime. » Le gouverneur me répondit, « On apprend à monseigneur ce que de fidèles sujets comme vous, monsieur le vicomte. » Il n'acheva pas sa phrase. Monsieur de Damas se hâta de déclarer que le moment des études était arrivé. Il m'invita à la leçon d'équitation à 4 heures. J'allais faire une visite à madame la duchesse de Guiche, logé assez loin de là dans une autre partie du château. Il fallait près de 10 minutes pour s'y rendre de corridor en corridor. Ambassadeur à Londres, j'avais donné une petite fête à Madame de Guiche, alors dans tout l'éclat de sa jeunesse, et suivie d'un peuple d'adorateurs. À Prague, je la trouvais changée, mais l'expression de son visage me plaisait mieux. Sa coiffure lui seyait à ravir. Ses cheveux, nattés en petites tresses, comme ceux d'une odalisque ou d'une médaille de Sabine, se festonnaient en bandeaux des deux côtés de son front. La duchesse et le duc de Guiche représentaient à Prague la beauté enchaînée à l'adversité. Madame de Guiche était instruite de ce que j'avais dit au duc de Bordeaux. Elle me raconta qu'on voulait éloigner M. de Barande, qu'il était question d'appeler des jésuites, que M. de Damas avait suspendu, mais non abandonné, ses desseins. Il existait un triumvirat, composé du duc de Blacas, du baron de Damas et du cardinal Latil. Ce triumvirat tendait à s'emparer du règne futur en isolant le jeune roi, en l'élevant dans des principes et par des hommes antipathiques à la France. Le reste des habitants du château cabalait contre le triumvirat. Les enfants eux-mêmes étaient à la tête de l'opposition. Cependant, l'opposition avait différentes nuances. Le parti Gontaut n'était pas tout à fait le parti Guiche. La marquise de Bouillé, transfuge du parti Berry, se rangeait du côté du triumvirat avec l'abbé Moligny. Madame la Dauphine, placée à la tête des impartiaux, n'était pas précisément favorable au parti de la Jeune France, représenté par M. de Barande. Mais comme elle gâtait le duc de Bordeaux, elle penchait souvent de son côté et le soutenait contre son gouverneur. Madame d'Agoult, dévouée corps et âme au triumvirat, n'avait d'autre crédit auprès de la Dauphine que celui de la présence et de l'importunité. Après avoir fait ma cour à Madame de Guiche, je me rendis chez Madame de Gontaut. Elle m'attendait avec la princesse Louise. Mademoiselle rappelle un peu son père. Ses cheveux sont blonds, ses yeux bleus ont une expression fine. Petite pour son âge, elle n'est pas aussi formée que la représentent ses portraits. Toute sa personne est un mélange de l'enfant, de la jeune fille et de la princesse. Elle regarde, baisse les yeux, sourit avec une coquetterie naïve mêlée d'art. On ne sait si on doit lui dire des contes de fées, lui faire une déclaration, ou lui parler avec respect comme à une reine. La princesse Louise joint au talent d'agrément beaucoup d'instructions. Elle parle anglais et commence à savoir bien l'allemand. Elle a même un peu d'accent étranger, et l'exil se marque déjà dans son langage. Madame de Gontaut me présenta à la sœur de mon petit roi. Innocents fugitifs, ils avaient l'air de deux gazelles cachées parmi des ruines. Mademoiselle Vachon, sous-gouvernante, fille excellente et distinguée, arriva. Nous nous assîmes, et Madame de Gontaut me dit « Nous pouvons parler, mademoiselle sait tout. Elle déplore avec nous ce que nous voyons. » Mademoiselle me dit aussitôt «
Oh, Henri a été bien bête ce matin, il avait peur. Grand-papa nous avait dit « Devinez qui vous verrez demain, c'est une puissance de la terre. » Nous avions répondu « Eh bien, c'est l'empereur. » « Non, a dit grand-papa. Nous avons cherché, nous n'avons pas pu deviner. Il a dit « C'est le vicomte de Chateaubriand. Je me suis tapé le front pour n'avoir pas deviné. »
Et la princesse tapait le front, rougissant comme une rose, souriant spirituellement avec ses beaux yeux tendres et humides. Je mourais de la respectueuse envie de baiser sa petite main blanche. Elle a repris.
« Vous n'avez pas entendu ce que vous a dit Henri quand vous lui avez recommandé de se souvenir de vous. Il a dit « Oh oui, toujours !» Mais il l'a dit si bas. Il avait peur de vous, il avait peur de son gouverneur. Je lui faisais des signes, vous avez vu ? Vous serez plus content ce soir, il parlera, attendez. »
Cette sollicitude de la jeune princesse pour son frère était charmante. Je devenais presque criminelle de lèse-majesté. Mademoiselle le remarquait, ce qui lui donnait un maintien de conquête d'une grâce toute gentille. Je la tranquillisais sur l'impression que m'avait laissée Henri.
« J'étais bien contente, me dit-elle, de vous entendre parler de maman devant Monsieur de Damas. Sortira-t-elle bientôt de prison ? On sait que j'avais une lettre de Madame la Duchesse de Berry pour les enfants. Je ne leur en parlais point, parce qu'ils ignoraient les détails postérieurs à la captivité. Le roi m'avait demandé cette lettre. Je crus qu'il ne m'était pas permis de la lui donner, et que je devais la porter à Madame la Dauphine, à laquelle j'étais envoyée,
et qui prenait alors les eaux de Carlsbad.
Madame de Gontaut me redit ce que m'avaient dit Monsieur de Cossé et Madame de Guiche. Mademoiselle gémissait avec un sérieux d'enfant. Sa gouvernante, ayant parlé du renvoi de Monsieur de Barande et de l'arrivée probable d'un jésuite, la princesse Louise croisa les mains et dit en souriant « Ce sera bien impopulaire !» Je ne pus m'empêcher de rire. Mademoiselle se prit à rire aussi, toujours en rougissant. Quelques instants me restaient avant l'audience du roi. Je remontai en calèche et j'allai chercher le grand burgrave, le comte de Chautec. Il habitait une maison de campagne à une demi-lieue hors de la ville, du côté du château. Je le trouvai chez lui et le remerciai de sa lettre. Il m'invita à dîner pour le lundi, 27 mai.